Voilà, ce cantique « Qu'il fait bon à ton service » est une belle introduction à notre méditation de ce matin, puisque nous allons voir quelqu'un qui a donné sa vie pour servir le Seigneur, c'est l'apôtre Paul, et je fais une pause ce matin dans le livre de Daniel. Nous reprendrons Daniel la semaine prochaine. Donc, ouvrons notre Bible dans l'épître aux Philippiens. J'aimerais aussi saluer ceux qui nous ont rejoints en cours de route, soyez la bienvenue. Alors, Philippiens chapitre 1, et nous voulons voir comment l'adversité est au service du Seigneur. On commence à partir du verset 1, et on s'arrêtera au verset 26. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures, et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je me réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Voilà, on a appelé cette épître aux Philippiens l'épître de la joie parce que l'apôtre Paul est confronté à de nombreuses difficultés. Il est emprisonné, il ne sait pas s'il va être exécuté. Il y a des difficultés à l'église de Philippe. Et pourtant, l'apôtre Paul se réjouit et nous encourage à nous réjouir. Et on peut lire encore une fois le Philippiens chapitre 4 et juste 10, verset 10 à 16, à 14, pardon, où Paul, et dans toute l'épître, il parle de se réjouir dans le Seigneur, toujours dans le Seigneur, un homme qui est éprouvé de cette manière, qui nous encourage. Philippiens chapitre 4, verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Voilà, un apôtre toujours joyeux, quoi qu'il en soit. Et c'est vrai que quand l'épreuve fonde sur nous, et quand elle fonde sur nous subitement, la première des choses qui s'en va, n'est-ce pas, c'est la joie. Nous perdons notre joie dans le Seigneur. Quand les circonstances changent, quand tout va bien, on est heureux. Quand ça change, eh bien, on perd notre joie. Il y a aussi des gens qui sont des voleurs de joie. Les gens deviennent difficiles, aussi bien jeunes qu'adultes, sur la route, dans les supermarchés, un peu partout. Les gens nous aigrissent et nous privent de notre joie. Voilà. Il y a aussi les choses et les biens matériels qui peuvent être enlevés ou donnés. Ça aussi, ce sont des voleurs de joie. Et je lisais que Abraham Lincoln promenait ses deux garçons et les deux garçons se chamaillaient et quelqu'un disait « Mais qu'est-ce qui arrive aux deux garçons ?» Alors il répondait « J'ai trois noix, mais chacun en vaut deux. » Alors donc, il y a trois noix, mais au lieu de vouloir une seule noix, chaque garçon voulait deux noix. C'est pas possible, voilà. Donc, ce genre de choses arrive aussi, voilà. Les choses qui nous privent de la joie, et puis il y a aussi les soucis. Et c'est vrai que des fois, on est tellement submergé par les soucis que la joie s'en va. Mais la joie est un fruit de l'esprit. Et l'apôtre Paul a connu la tristesse, l'emprisonnement, les coups, et beaucoup de choses difficiles. Mais malgré ça, toutes ces choses, au contraire, affermissaient sa communion avec le Seigneur et renforçaient la joie authentique qu'il avait en Dieu. Voilà. Et le Seigneur nous disait, c'est un homme de douleur, Jésus, un homme de douleur habitué à la souffrance, et pourtant, il voulait que nous connaissions sa joie. Voilà. Et donc, que Dieu nous aide par la foi à garder la joie que nous avons dans le Seigneur. Mais nous voulons voir ce matin comment l'adversité est au service de l'évangile. Et nous allons considérer les versets 15 à 26 de l'épître aux Philippiens que nous avons lu ce matin. Tout d'abord, l'évangile progresse malgré les chaînes. Et nous voyons ça des versets 12 à 14. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Voilà. Les liens, les chaînes ne sont pas une entrave pour l'évangile. Au contraire, l'évangile progresse malgré les liens. Alors Paul commence en disant, je veux que vous sachiez, frère. Il veut attirer notre attention sur quelque chose d'important. Il nous dit aussi en quelque sorte, avec Dieu, rien n'arrive au hasard. Il est le maître de l'histoire, c'est lui le créateur, c'est lui le grand roi qui domine sur tout. Alors au lieu de faire obstacle à son ministère, l'emprisonnement, ses chaînes, ses liens et son futur jugement font plutôt progresser l'évangile. Nous l'avons dit. Alors le mot traduit par progrès ne traduit pas seulement le fait d'avancer. Ce mot traduit par progrès signifie avancer malgré les difficultés, malgré les obstacles. Paul savait par expérience que l'opposition de Satan et que l'opposition du monde sont indissociables des progrès de l'évangile. Et je vous lis 1 Corinthiens, chapitre 16, versets 8 à 9. « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Quand Paul allait, il savait qu'il y avait des adversaires, mais il savait que ça n'allait pas être une entrave. Il va dire aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2, « Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. » Et enfin, pour encourager son enfant dans la foi, Timothée, Paul va lui écrire dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 8 à 10, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Les obstacles n'arrêtent pas l'évangile, au contraire, ils sont au service de Dieu. Au lieu donc de se plaindre, de protester contre ces épreuves, l'apôtre Paul les considère plutôt comme un moyen de favoriser les progrès de l'évangile. Il peut dire à ses persécuteurs ce que Joseph a dit à ses frères. Dans Genèse, nous connaissons bien cette parole de Joseph, dans Genèse chapitre 45 et 50. « Ce n'est pas vous, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Et dans Genèse 50, 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Dieu n'a-t-il pas utilisé les mauvaises actions des hommes, les mauvaises actions du diable, pour accomplir la rédemption? Et nous en sommes au bénéfice ce matin. Les obstacles ne sont pas un frein à l'œuvre de Dieu, au contraire, elles peuvent les favoriser. On voit aussi, donc, on peut lire encore quelque chose qui est intéressant, des versets 13 à 14. « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Les chaînes de Paul ont contribué au progrès de l'Évangile aussi bien en dehors de l'Église, il nous dit dans tout le prétoire, qu'au sein de l'Église. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte l'Évangile. Paul se réjouit des progrès de la cause de Christ parmi les païens. Au verset 13, il disait que l'Évangile progresse. Et en parlant à un groupe de juifs à Rome, Paul dit « C'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes » dans Actes chapitre 28-20. Il va écrire aussi aux Éphésiens qu'il est un ambassadeur dans les chaînes. Paul ne voyait pas ces chaînes comme un problème, mais c'était comme une sorte d'équipement. Voilà, Dieu était avec lui dans ses chaînes. Dieu utilisait ses chaînes pour faire avancer. Donc il n'avait pas honte de dire qu'il était ambassadeur dans les chaînes. Et quand il va écrire aux Philippiens, il est en résidence surveillée à Rome, en l'an 62, et pendant 2 ans, il sera enchaîné continuellement à des soldats qui vont être relevés toutes les 6 heures. Impossible de fuir, impossible d'avoir un moment d'intimité. Les croyants de Rome avaient certainement prié, ils avaient prié Dieu d'ouvrir une porte pour que l'Évangile soit annoncé à Rome, dans tout le prétoire et partout ailleurs. Eh bien, Dieu a exaucé la prière. Dieu a exaucé la prière en enchaînant Paul pendant 2 ans à Rome. Nous voyons des fois les choses d'une façon toujours romantique, idéale, mais Dieu utilise les adversités pour accomplir son rôle. Et voilà, ils avaient prié, et bien Dieu a répondu à la prière. Paul est enchaîné, mais c'est ainsi que l'Évangile va être annoncé à Rome et partout ailleurs. Ce qui semblait être un désastre pour la plupart des frères, la plupart des chrétiens, était une occasion inégalée qui contribuait au progrès de l'Évangile. On peut lire Actes chapitre 2, 28, pardon, versets 30 à 31, et on nous a dit que Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Alors le prétoire peut désigner la résidence du gouverneur romain, mais ça peut aussi désigner une unité de 10 000 soldats d'élite chargés de maintenir la paix et surtout de protéger l'empereur. Alors imaginez Paul enchaîné à des soldats. Ses chaînes l'ont mis en contact, il est enchaîné avec des soldats. Imaginez-vous que vous êtes un de ces soldats. Vous êtes enchaîné à Paul qui prie sans cesse, vous l'entendez prier. Vous l'entendez qui s'entretient avec un bon nombre de visiteurs, des gens qui viennent. Et Paul ne parle pas de cuisine et de bricolage, il parle l'Évangile. Il parle des choses spirituelles, il parle du salut en Christ. Il encourage les frères et sœurs, il écrit des lettres à des chrétiens, à des églises. Vous êtes le soldat enchaîné à lui, vous vivez tout ça avec lui. Vous pouvez même discuter avec lui quand il n'y a plus personne. Vous vous rendez compte que finalement, ce n'est pas l'homme qu'on décrit qui est méchant, qui est mauvais. C'est un homme qui est sincère, qui est aimable. Vous apprenez que ce n'est pas à cause d'une faute grave qu'il a enchaîné, mais c'est à cause de Jésus-Christ en qui il a cru. Et que les Romains avait crucifié. Vous apprenez que Jésus-Christ est le Sauveur, qu'il sauve gratuitement, par grâce. Eh bien, Paul, finalement, a pu annoncer l'Évangile à la garde prétorienne, ce qu'il n'aurait pas pu faire s'il était en liberté. C'est parce qu'il était dans les chaînes qu'il pouvait annoncer de telle façon, de cette façon-ci, l'Évangile. Malgré les chaînes, l'Évangile progresse. Ensuite, non seulement les soldats lambda, mais les chaînes de Paul l'ont aussi mis en contact avec les grands de Rome, les dignitaires de la cour de César, les gouverneurs et tous ces gens-là. Paul était un prisonnier spécial. Son cas était important. Et le gouverneur romain allait se prononcer sur le statut de cette secte, cette nouvelle secte, les chrétiens, le christianisme. Alors il fallait, si on voulait juger avec objectivité, consulter les livres, faire des recherches, étudier la doctrine. Et par là, eh bien, l'Évangile atteignait ces personnes qui étaient haut placées. Voilà, imaginez toutes les conversations qui ont pu suivre quand ces personnes ont étudié l'Évangile, quand ils ont étudié la doctrine, quand ils ont étudié le parcours de Paul, quand ils ont étudié qui est cette personne. Enfin, imaginez tout ce que ça a pu porter comme fruit et comme conversion. La parole de Dieu étudiée nous nourrit, nous éclaire, nous humilie et nous sauve si nous nous humilions et nous l'acceptons telle qu'elle est. Eh bien, malgré les chaînes, l'Évangile progresse. Au verset 13, en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. La fidélité de Paul a permis de gagner des âmes en dehors de l'Église, dans tout le prétoire et partout ailleurs. Dieu a aussi utilisé les chaînes pour encourager les chrétiens, parce qu'au verset 14, il nous dit, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Il n'est pas dit quelques frères, mais la plupart des frères. Donc, il y a un bon nombre de frères qui ont été encouragés. Avant l'emprisonnement de Paul, les croyants avaient peur de proclamer ouvertement leur foi, parce que le christianisme était une religion naissante. C'était une nouvelle secte, disait-on, une secte du judaïsme. Et il progressait dans tout l'Empire, et vous savez que tout ce qui est nouveau suscite la crainte. Aussi bien de la part des Juifs, la crainte des Juifs, comme des non-Juifs. Donc les croyants étaient un peu timides. Et Paul leur offre un exemple. Paul les encourage en voyant comment Dieu le protégeait, comment Dieu bénissait son ministère, malgré la persécution et l'emprisonnement. Eh bien, les croyants ont pris de l'assurance. Ils ont été davantage motivés pour partager l'Évangile. Leur zèle a été amplifié, leur zèle a été stimulé, ainsi que leur audace. Alors, l'apôtre Paul, lui, aurait pu se laisser décourager par ses chaînes. Dieu lui avait dit dans Actes chapitre 23, verset 11, « Il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Voilà. Donc Paul dit, « Eh bien, je vais à Rome porter l'Évangile. » Et le voilà, enchaîné, emprisonné, susceptible d'être exécuté. En regardant ses chaînes, l'apôtre Paul aurait pu être découragé et dire, « Ben, cette évangélisation est un échec total. Me voilà dans les chaînes, je n'ai pas toute la liberté que je veux. » Je risque de mourir bientôt, mais il ne s'est pas laissé abuser par cela, il ne s'est pas laissé décourager par les chaînes, parce que l'apôtre Paul n'était pas esclave des circonstances, il était un esclave du Seigneur Jésus-Christ, comme nous aussi. Nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes des esclaves de Dieu. Paul était un homme résolu, Christ est ma vie, et mourir maintenant. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous connaissez John Bunyan peut-être? C'est un homme qui prêchait la parole de Dieu au XVIIe siècle en Angleterre avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Et là aussi, on n'aimait pas l'Évangile. Alors, les chefs de l'Église l'ont fait emprisonner pour le réduire au silence. On veut faire taire cet homme qui parle des choses de Dieu, de cet homme qui parle du salut par la grâce seule, par le moyen de la foi. Eh bien, en prison, Bunyan ne s'est pas tué. Il a refusé de se taire et, au contraire, il a commencé à prêcher dans la cour de la prison. Eh bien, figurez-vous qu'en plus des prisonniers, il y avait tout un tas de personnes, une foule de citoyens de Bedford et des environs qui se déplaçaient et qui venaient tous les jours à la prison pour écouter l'apôtre Paul à l'extérieur des murs de la prison, l'explication des Écritures. Voyez comment Dieu utilise l'adversité. On a enfermé Bunyan pour empêcher à l'évangile de se propager. Eh bien, Dieu utilise ça pour les prisonniers et pour beaucoup de gens aux alentours qui venaient tous les jours écouter l'explication des Écritures donnée par Bunyan dans la prison. On a voulu le faire taire en enfermant dans un cachot, mais c'est là qu'il a écrit le voyage du pèlerin. Dans le cachot, frères et sœurs. Ça a servi la cause de Dieu. Et son ministère s'est étendu non seulement dans la prison de Bedford, mais jusqu'aux extrémités de la terre, puisque nous aussi, nous avons été bénéficiaires de ce magnifique livre qui s'appelle « Le voyage du pèlerin ». Je vous encourage à lire ce livre. Eh bien, nous avons vu dans cette première partie que l'Évangile progresse malgré les chaînes. Voyons maintenant que l'Évangile progresse malgré les adversaires. Et on voit au verset 15, versets 15 à 18, nous pouvons lire « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures, avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Voilà, qui aurait pensé que des chrétiens allaient s'opposer à l'apôtre Paul? On s'attendait de ça, des ennemis de l'évangile, on s'attend de ça de la part d'un incroyant, mais de la part de notre croyant, on ne s'attend pas à cela. Eh bien, il y a, ça arrive. Eh bien, les détracteurs de Paul au verset 17 prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Le problème de ces prédicateurs n'est pas le contenu du message, ils prêchent Christ. Mais c'était la motivation du cœur, c'était leur mobile. Ce qui ne va pas, c'est qu'ils prêchaient Christ par envie, nous dit la parole, et par esprit de dispute. Alors, l'envie désigne dans la langue grecque le désir de priver les autres de ce qui leur est dû, de les priver entièrement ou partiellement de ce qui leur revient de droit. C'est souhaiter que ces personnes ne jouissent pas de ce qui doit leur revenir. C'est par envie que la foule dans Matthieu 27-18 et les principaux sacrificateurs dans Marc chapitre 15 verset 10 ont livré Jésus-Christ à Pilate pour qu'il soit crucifié. Paul rappelle d'ailleurs à Tite, dans Tite chapitre 3 verset 3, « Nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toutes sortes de convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » Mais les croyants, en se donnant à Christ, ont reçu une nouvelle nature et sont exhortés à rejeter toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. 1 Pierre chapitre 2 verset 1. L'envie est liée à la jalousie et même à la compétition, à l'hostilité et au conflit. Les propos de Paul nous montrent qu'un fidèle serviteur de Christ doit avoir un bon message, une bonne doctrine, mais aussi une bonne motivation. Ces gens qui voulaient susciter des afflictions à Paul avaient le bon message, mais pas la bonne motivation. Paul ajoute, si quelques croyants prêchaient Christ par envie et par un esprit de dispute, avec la pensée de susciter à Paul quelques afflictions dans les liens, d'autres prêchaient Christ avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures. Alors, ceux qui annoncent Christ avec des dispositions bienveillantes, au verset 15, savent que Paul n'est pas un malfaiteur, que Paul ne prêche pas, ne sert pas sa cause. Ils savent que Paul est au centre de la volonté de Dieu, qu'il est établi pour la défense de l'évangile. Et vous voyez, tout ça aurait pu chambouler Paul, mais Paul garde une vision globale. Il ajoute plus loin, au verset 18, qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Voilà. Il y a des hommes qui cherchent à susciter des afflictions à Paul. Il y a d'autres qui cherchent la gloire de Dieu entièrement. Paul ne se laisse pas troubler dès que l'évangile est annoncé. Voilà. Christ est annoncé, c'est ce qui réjouit Paul. La parole de Dieu porte toujours du fruit. Elle porte toujours du fruit, quels que soient les motifs de celui qui la proclame. Parce que Ésaïe 51, verset 11 nous dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Et nous avons lu ce matin Jonas a prêché à Ninive et les gens se sont repentis. Ils ne voulaient pas y aller. Et Dieu l'a motivé pour y aller, il a prêché et les gens se sont repentis. Christ est annoncé malgré les adversaires et Paul se réjouit non à cause des circonstances, mais malgré elles et par leurs moyens. Alors nous avons vu tout d'abord que Christ est annoncé malgré les chaînes, nous avons vu maintenant que Christ est annoncé malgré les adversaires, et nous allons voir maintenant que Christ est annoncé et glorifié malgré la mort. Et c'est les versets 19 à 21, nous lisons « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. » Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Dans les versets que nous avons lus, on voit que Paul a de solides convictions. Il est pleinement enraciné dans le Seigneur. Il sait qu'il a tout pleinement en Christ. Il est convaincu que les circonstances, même les circonstances négatives de la vie, glorifient le Seigneur, que Christ sera glorifié, que la cause de Dieu va triompher, car je sais que cela tournera à mon salut. Alors quand il dit ça, il cite la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, et Job a dit la même chose, cela même peut servir à mon salut. Donc il peut donc affronter sereinement la mort, comme Job aussi l'a fait dans Job chapitre 16, 13 verset 16. Job comprenait que les souffrances qu'il subissait n'étaient pas un châtiment de Dieu à cause d'un péché commis. Paul, comme Job, savait que Dieu le délivrerait un jour de toutes ses afflictions, les douleurs physiques, les fausses accusations. Il savait que leur situation était temporaire. Il savait que soit par la mort, soit par la vie, il serait délivré, aussi bien Paul que Job. Paul s'appuyait sur la parole de Dieu, la parole du Seigneur, qu'il avait consignée quelques années plus tôt dans la lettre aux Romains, et nous connaissons bien cette référence de Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ensuite, Paul croit en la souveraineté de Dieu, Dieu souverain. Il sait aussi que les plans de Dieu incluent la prière des saints. Et Paul sait que la prière agissante du juste a une grande efficacité, Jacques chapitre 5. Il prie, Paul, de façon continuelle, il a dit, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. » Paul est un homme de prière. Et au verset 9, « Et ce que je demande dans mes prières, mais c'est aussi que les prières de l'Église sont importantes. » Il sait que les prières de l'Église sont importantes. À Corinthe, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 5, il va dire, « C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Vous nous assistez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. » Il va aussi écrire aux Romains, dans Romains chapitre 15, verset 30, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Il va écrire aussi aux Éphésiens, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » les plans de Dieu, frères et sœurs, Dieu est souverain, mais la prière aussi a un rôle à jouer. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 25, frères, priez pour nous. Paul aurait pu dire, mais j'ai pas besoin des prières des autres. Mais il savait que c'était important. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 1, au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Il y a plusieurs choses dans ces courts passages. Et on voit aussi que Paul, au verset 19, a confiance en l'Esprit. Alors, verset 19, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Il a confiance dans l'assistance du Saint-Esprit. Et nous aussi, nous avons, nous, l'Esprit de Dieu qui nous instruit, qui nous conduit, qui nous encourage. Le terme assistance décrit le don entier, abondant et suffisant de ce qui est nécessaire. Le Saint-Esprit est la ressource qui suffit à tous les besoins du croyant. Il nous guide quand nous ne savons pas ce qu'il faut dire. Jésus a fait la promesse suivante dans Matthieu chapitre 10, versets 19 à 20. « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Dans Romains chapitre 8, verset 26, « L'Esprit aide les croyants à prier. » Dans Actes chapitre 1, verset 8, dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, l'Esprit est la source de la puissance. Vous recevrez une puissance survenant sur vous, l'Esprit de Dieu. L'Esprit aussi produit le fruit de l'Esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Paul a pleinement confiance dans le Seigneur et dans l'assistance de son Esprit Saint. Et sachant que son corps est le temple du Saint-Esprit, il l'a offert au Seigneur, comme nous l'avons chanté dans ce cantique, « Prends, ô Jésus, prends ma vie, qu'elle soit toute à toi. » Le Seigneur nous invite à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Voilà. Et Paul ne sera pas déçu parce que sa ferme attente et son espérance sont fondées sur les promesses du Seigneur et non sur ses propres désirs. La prière, l'Esprit de Dieu, les promesses de Dieu, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Alors, car je sais, verset 19, que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Alors, on pourrait dire, c'est étonnant ces paroles, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. On pourrait dire, mais comment ça? La vie, le gain, ce n'est pas la force physique, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la jeunesse. Comment est-ce qu'on peut dire que la mort est un gain? La mort, c'est plutôt une perte. Mais pour l'apôtre Paul, Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Pour l'homme naturel, mourir est une perte, parce qu'il laisse tous ses trésors ici. Son argent, sa maison et tout cela. Mais pour le croyant, la mort n'est pas une perte, mais un gain, parce qu'on va retrouver le Seigneur, on va être consolé de toutes nos peines, et on va pouvoir jouir pleinement, quand tous les chrétiens sont réunis, de salut, de la pleine jouissance de la rédemption. Le Seigneur a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Si vous êtes en Christ, vous avez tous les trésors qu'il faut. Et 1 Jean chapitre 5, verset 12 à 13, « Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Si on a la vie éternelle, la mort n'est pas une perte. La mort, c'est simplement une étape. Paul sait que la richesse, la puissance, la santé, les bonnes affaires, la réussite professionnelle et toutes ces bonnes choses que les hommes cherchent, sont temporaires. Et tout le monde sait ça, mais est-ce que nous vivons, nous chrétiens, en conséquence, sachant que Christ est notre vie et que nous avons tout pleinement en lui et que nous ne devons pas avoir peur de la mort? Enfin, le dernier point, le quatrième point, on voit que malgré les limites de la chair, malgré la faiblesse, on voit que l'Église s'affermit. L'œuvre de Dieu continue c'est la dernière partie, Philippiens, chapitre 22 jusqu'à 26. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, Je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Finalement, Paul disait, « Tant que le Seigneur a du travail pour moi, je serai avec vous. Tant que le Seigneur a du travail pour moi, je resterai sur la terre. » Et c'est ce qui doit nous diriger, frères et sœurs. Nous sommes là pour servir le Seigneur. Tant que nous sommes vivants, faisons-le. Et Paul disait, « Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Paul est persuadé que son ministère envers les Philippiens n'est pas encore terminé. Alors, l'adversité, dans tous ses aspects, les chaînes, les adversaires, la limitation physique, ne décourageait pas Paul parce qu'il était un homme résolu. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Il ne s'appuyait pas sur les hommes ni sur les choses, mais s'appuyait sur son Seigneur. Mais il nous faut remarquer que le véritable héros de l'affaire n'est pas Paul, mais son berger, le Seigneur Jésus-Christ, qui le connaissait parfaitement et qui faisait concourir toutes choses à son bien. Loin donc de voir les circonstances désagréables de la vie comme un obstacle, Paul les consacrait à Dieu et lui demandait de les faire servir à la cause de l'Évangile, hors de l'Église et dans l'Église. Frères et sœurs, qu'une telle pensée nous accompagne aussi, que toute forme d'adversité, nous puissions les remettre au Seigneur et dire, eh bien, Seigneur, fais concourir ces choses au bien de l'Évangile, dans l'Église et en dehors de l'Église. Suivant donc l'exemple de l'apôtre Paul, et que Dieu nous donne de méditer ses paroles.